La Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est parti pour une nouvelle Covidienne. Au programme de ce soir, Léo a reçu Charlotte, membre du mouvement Youth for Climate, formé il y a 2 ans au moment des Vendredis pour le Climat. J'enchaînerai avec une revue de presse féministe et on conclura sur une note poétique avec la lecture pour le printemps des poètes.
Le 19 mars à venir, le mouvement Youth for Climate, les jeunes pour le climat, se mobilise. Un rassemblement est prévu à partir de 14h au Jardin du Mail. Le cortège s'élancera ensuite dans les rues angevines et le comité d'organisation a prévu quelques actions symboliques en chemin. On reçoit aujourd'hui Charlotte en studio pour échanger autour de cette mobilisation. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Merci d'être là. Alors Youth, c'est d'abord un mouvement de jeunes, voire de lycéens essentiellement, qui se rassemblent pour sensibiliser la population sur la justice climatique, la protection de l'environnement et la biodiversité. C'est un mouvement qui s'est constitué dans le cadre des Fridays for Future, les Vendredis pour le Climat, qui ont rassemblé plusieurs centaines de milliers de jeunes dans le monde. Ils s'en déroulent régulièrement depuis 2019 et ont beaucoup fait réagir dans le monde médiatique. Quand est-ce qu'a été montée la section locale d'Angers ?
Alors, Angers, ça a été créé à la première manif du 15 mars 2019. Donc, c'était le premier gros appel mondial à la manifestation pour le climat. Donc, ça a été créé par deux lycéennes qui se sont dit, bah voilà, moi j'aimerais bien qu'il y ait une manif climat à Angers. Donc, on va essayer de créer ça. Elles ont commencé par un événement Facebook et voilà, ça a pris de l'ampleur. Et après, elles sont passées à la deuxième manifestation en mai, etc. Et plusieurs personnes ont rejoint le mouvement et voilà, c'est comme ça que c'est né.
De façon très spontanée finalement.
Exactement.
Et combien de personnes ont rejoint le mouvement aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on est environ une vingtaine d'actifs. Ça tourne plus ou moins sur les disponibilités parce qu'on est tous lycéens, étudiants, donc on a tous du temps, pas forcément en même temps, ni la même dose d'énergie à donner. Donc voilà, ça tourne pas mal.
Et comment ça se passe l'organisation au sein du mouvement ? Vous en avez plutôt qui sont spécialisés dans la com, d'autres sur l'organisation des événements ? Ça fonctionne par pôle ?
Oui, voilà, c'est ça. Chacun est libre de donner de son temps comme il veut, dans les domaines qu'il veut, là où il a plus de compétences ou là où il veut juste aussi apprendre. Parce qu'on peut se lancer dans la com sans s'y connaître, mais nous, entre nous, voilà, on se fait des auto-formations sur plein de sujets. Donc voilà, donc en effet, on a une team pour la com, du coup, qui va s'occuper plus des visuels, les réseaux sociaux, etc. On a une team plutôt qui va gérer les projets. Bien sûr, on peut être dans plusieurs teams en même temps et être partout si on a, on peut être partout si on a de l'énergie à mettre partout. On a aussi une team pour accueillir les nouveaux, pour les parrainer, pour les suivre, pour essayer qu'ils ne soient pas perdus trop et puis qu'ils restent bien avec nous et pour bien les intégrer.
Et au niveau de la prise de décision, comment ça se passe ? Il y a un bureau où la voix de toutes et tous est prise en compte ?
La voix de toutes et tous est prise en compte parce que à Youth for Climate, on mise beaucoup sur l'horizontalité du coup. Et donc tout le monde est légitime de dire ce qu'il pense, de dire ce qu'il veut, etc. Mais bien sûr, il faut qu'on respecte la charte de Grenoble donc, qui a été réfléchie donc, à Grenoble en 2019, en octobre 2019, par plusieurs groupes locaux de Youth for Climate. Donc voilà, on respecte cette charte.
Qu'est-ce qu'elle contient, cette charte ?
Alors, cette charte, elle dit que, déjà, on a un mouvement horizontal. On est anticapitaliste, on met sur la solidarité, l'inclusivité, sur l'autogestion, l'auto-formation.
Et vous travaillez en fédération avec les autres sections de Youth, où c'est davantage le Youth for Climate France qui prend la décision, et ensuite, il vous revient, les sections locales, de mettre en œuvre ce qui est décidé à l'échelle nationale ?
Les groupes locaux à Youth for Climate, on est très indépendants en fait. Vraiment, le national, il va être là vraiment, bah, par exemple, pour les dates mondiales, comme celle du 19 mars. Le national va être là, par exemple, pour aider aussi les GL, pour être là pour les journaux aussi, pour gérer les demandes de presse, pour la communication aussi. Mais vraiment, en tant que groupe locaux, on est vraiment libre de faire ce qu'on veut. Si on a envie de faire une action, tant que ça respecte la charte de Grenoble, vraiment, on est libre. Et tout le monde prend les décisions, ceux qui veulent adapter à leur ville. Et vraiment, le national, c'est juste pour les grosses mobilisations et puis pour l'aide un peu technique.
Et vous avez d'autres types de mobilisations que ces manifestations ?
Oui, oui, bien sûr. On ne s'arrête pas que aux manifestations. Donc, au tout début du Youth for Climate, pour un peu changer des manifestations, on avait organisé des clean walks, des vérolutions, des conférences, des petits films, débats, etc. Ensuite, on a commencé à faire d'autres actions, notamment des blocages. On avait bloqué McDo en septembre 2020. Mais on essaye aussi, là avec le confinement, c'est vrai que ça nous a offert un peu des nouvelles possibilités. Donc on s'est plus penché pour faire des posts Instagram pour sensibiliser du coup via les réseaux sociaux, pour informer sur des thématiques comme l'artificialisation des sols ou pourquoi McDo c'est pas si bien que ça ou d'autres choses. Et voilà, on essaie d'être un peu partout comme on peut.
Et comment elles sont perçues, vos mobilisations, par celles et ceux qui ne sont pas membres de Youth, notamment le blocage de McDo? C'est bien passé? Ça a été compris? Pas trop? Ça a été dénoncé?
Alors, ça dépend. Bien sûr, il y a des gens qui ont dit « c'est super, mais trop bien, oh, j'ai trop envie de faire ça, la prochaine fois je vais y être, etc. » D'autres qui ont dit « mais n'importe quoi, mais vous avez pas honte, mais c'est pas possible, etc. » D'autres qui nous disent que « mais oui, mais vous attaquez à plus gros que vous, faut s'attaquer à plus petit si vous voulez qu'il y ait du résultat. » etc. Mais si on s'attaque à plus petit, après on dit oui mais non mais vous avez pas honte, c'est des petits, attaquez-vous plutôt aux gros. Bon, on essaie un peu de gérer, voilà, on prend bien sûr les avis, les critiques, quand c'est bien construit on les prend pour s'améliorer aussi, mais on fait principalement nous ce qu'on a envie de faire et ce qui nous semble utile de faire.
Je vous avais déjà suivi lors d'une opération de sensibilisation à l'exploitation des Ouïghours pour de grandes marques de textiles, automobiles, etc. On vous retrouve ce vendredi pour le climat. Y a-t-il d'autres faits de société pour lesquels vous vous mobilisez?
Oui, bien sûr. Donc, en effet, l'écologie et le social, c'est lié et c'est important de ne pas du tout les séparer. Donc, en effet, on fait de la sensibilisation pour les Ouïghours, on fait de la sensibilisation pour l'environnement. Mais on va essayer d'être présent pour pendant les mouvements féministes, les mouvements antiracistes, etc. Et on essaye d'être, voilà, d'être présent le plus possible dès qu'il y a une cause. En fait, on travaille beaucoup aussi avec d'autres mouvements, d'autres associations. Et du coup, quand ils font des actions ou des choses, nous, on essaie d'être là quand on peut aider ou juste assister au rassemblement. Ou...
Quelles organisations en particulier? Tu as des exemples?
Oui, on travaille beaucoup, par exemple, avec ATTAC, France Nature Environnement, XR, Le Rare... Et
alors,
l'Arap.
XR, Le Rare et l'Arap, peut-être que tout le monde ne connaît pas, tu peux peut-être détailler un petit peu.
Ouais, XR, donc c'est Extinction Rebellion Angers. Le Rare, c'est le réseau autonome agricole, le réseau d'entraide. Donc, ils avaient avant un free shop basé au squat de la Grande Ourse, parce qu'ils ont un champ qu'ils exploitent avec des légumes mis à disposition pour les personnes en précarité. Et ensuite, le RAP, c'est contre la publicité, donc avec lesquels on travaille beaucoup. Notamment, ils nous ont initié à tout ce qui est light off, anti-pub, etc.
Et toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre Youth for Climate?
Alors moi, j'ai toujours été sensibilisée à l'environnement depuis que je suis toute petite. C'est vrai que j'ai eu cette chance-là. Puis un jour, sur Instagram, je suis tombée sur une page qui s'appelait Youth for Climate Angers. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis j'ai regardé, puis ça avait l'air super sympa. Alors pendant des mois, ils organisaient plein de choses auxquelles j'étais à chaque fois pas disponible. Et un jour, ils ont fait une réunion de nouveau. Donc j'ai dit, bah, c'est moi, je suis disponible, j'y vais. Et puis j'ai tout de suite adhéré, ça a tout de suite matché. Donc j'y suis allée, puis voilà, ça fait maintenant plus d'un an que j'y suis.
Et t'as essayé un petit peu dans ton entourage de parler de ton engagement? T'en as peut-être d'autres qui t'ont dit, oh tiens, c'est pas une mauvaise idée, je vais voir pour me joindre à toi et découvrir un petit peu ce milieu?
Ouais, il y a des gens qui, quand apprennent ça, sont surpris, ils sont, oh c'est vrai, t'es là-dedans, oh mais c'est trop bien, ça se passe comment? Ils sont curieux, etc. Donc c'est vrai que c'est super sympa. Mes parents, eux, ma sœur aussi est militante, et mes parents étaient aussi un peu aussi à la manifestation à mon âge. Donc du coup, ça les a pas... Enfin, ça les a pas choqués, et puis ils m'ont plutôt soutenu, et du coup voilà, c'est juste, en fait ça choque pas vraiment les gens que je sois militante.
Place, deuxième partie, à la mobilisation à venir. C'est la reprise des Vendredis pour le Climat, hein, ce 19 février. Quelles sont les organisations qui se sont jointes à vous, les mêmes avec lesquelles vous travaillez? J'imagine ATTAC, XR, le RAP, la RAF aussi.
Oui, alors pour le 19 mars, du coup, on ne voulait pas que ça soit que nous. On voulait aussi que ce soit une opportunité pour plusieurs organisations de venir, de faire un peu soin, aussi un peu de faire une petite action. Donc on est soutenus principalement, donc il y a l'UNL et le MNL qui se sont joints à nous, de syndicats lycéens. Il y a aussi l'UNEF aussi qui aussi ont fait un peu de communication au niveau du coup des étudiants. Il y a ATTAC qui va être là, ainsi que Place au Vélo notamment, la RAP, il y aura XR, il y aura un peu tout le monde, ça tout ce qu'on y est. Il y a aussi le nouveau groupe de Angers for Ouïghours, donc un groupe de soutien pour les Ouïghours qui vont être là aussi.
Je vais rapidement balayer les grands motifs de mobilisation qui sont mentionnés dans votre communiqué de presse. Informer sur l'urgence climatique, les projets écocidaires locaux, les entreprises polluantes, les effets du capitalisme sur la Terre et l'être humain. D'abord, l'information sur l'urgence climatique. On le verra sans doute plus concrètement lors des mobilisations, mais quel public vous souhaitez informer en particulier?
Alors, Youth for Climate, du coup, principalement, c'était par les jeunes. Et du coup, on essaie de sensibiliser les jeunes pour qu'ils puissent évoluer et grandir en ayant ça dans un coin de leur tête. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, plein ont grandi sans avoir cette dimension-là dans un coin de leur tête. Et du coup, on leur expose ça maintenant. Et comment gérer quand on s'est construit sur quelque chose où il manquait, du coup, ce point de vue écologique. Donc, principalement les jeunes, mais aussi les personnes plus âgées. Parce qu'actuellement, c'est elles qui ont le pouvoir. C'est elles qui sont, par exemple, à la tête de telle entreprise ou au sein de la mairie, etc. Donc c'est elles qui ont le pouvoir, donc c'est aussi bien de les informer elles aussi. Donc vraiment on essaie de le plus de monde possible.
Et comment vous vous y prenez justement pour les informer? Les jeunes, j'imagine, ça passe surtout par les réseaux sociaux, mais les personnes plus âgées, comme tu viens de le dire, c'est plus, je sais pas, du militantisme de tous les jours, des communiqués de presse qui sont envoyés, ce genre de choses?
Oui, voilà, c'est ça. Donc les jeunes, on va principalement sur les réseaux sociaux. Suivez-nous sur Instagram, youthforclimate.angers, Facebook et Twitter, youthforclimate.angers aussi. Pour les populations un peu plus âgées, c'est vrai que souvent quand on fait une action, on envoie un communiqué de presse, souvent les journaux suivent et font un article dessus. Puis sinon, lors de mobilisation dans la rue, c'est vrai que par exemple quand on fait une sensibilisation ouïghour, ben, on a de tout âge dans la rue, etc. Et donc c'est principalement aussi les personnes âgées qui viennent nous voir d'eux-mêmes pour se demander ben, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a des jeunes qui sont là, qui font ça.
Vous mentionnez également, je le disais tout à l'heure, des projets écocidaires locaux. Est-ce que tu as des exemples à nous fournir?
Près d'Angers, il y a l'autoroute A11 qui, voilà, en 98, il y avait un plan d'aménagement donc, de cette autoroute qui avait prévu qu'en 2020, ce serait du tout voiture, qu'il y aurait des embouteillages, beaucoup, donc il fallait élargir les voies et construire un deuxième viaduc. Aujourd'hui, il n'y a pas d'embouteillage sur cette autoroute et le tout voiture n'est plus du tout à la mode. Donc du coup, c'est un projet qui n'a plus lieu d'être, mais qui avait été voté justement en 98. Donc actuellement, heureusement, il y a une enquête publique dessus. Donc on espère fortement que ce projet sera abandonné parce qu'il est totalement inutile. De plus que ça bétonnerait, artificialiserait des zones humides, donc qui regroupent beaucoup d'espèces.
Vous parlez également des bienfaits de la végétalisation des villes. Quel impact significatif cela pourrait avoir dans une ville comme Angers? Et comment ça pourrait être mis en œuvre?
Alors la végétalisation dans les villes, c'est hyper important, notamment juste sur un point. La chaleur. Il faut savoir que la présence de végétaux, ça fait diminuer la chaleur dans les villes et on va avoir des canicules plus souvent, plus longues, plus fortes. Et la présence de végétaux, c'est super important. On voit bien en canicule, si on va dans un parc, il va faire beaucoup plus frais que dans une rue toute bétonnée avec des murs. Et pourtant, à Angers, on est la ville la plus verte de France. Et pourtant, nous, on ressent un manque de végétalisation et on est conscient que pendant les canicules, il va faire chaud et qu'il y a besoin de végétaliser. Alors que pourtant, on est la ville la plus verte de France, donc dans les autres villes, c'est vrai que le sujet est encore plus critique.
Ce serait d'autres espaces à végétaliser. C'est vrai qu'il y a le jardin des plantes, il y a le parc Saint-Nicolas, il y a le lac de Maine, mais dans le centre-ville, on ne peut pas dire qu'ils n'ont plus des arbres à tous les coins de rue.
Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment pas faire qu'un petit espace 100% végétalisé, mais étendre la végétalisation un peu plus partout.
Bien sûr, le combat que vous menez à l'échelle d'Angers, il est aussi national et international. Les accords de Paris avaient été présentés comme historiques, de même pour la Convention citoyenne pour le climat. Par le passé, beaucoup de documents signés, Jacques Chirac qui déclare « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Mais au final, qu'est-ce qui a vraiment changé? Qu'est-ce que tu as pu observer depuis que tu t'intéresses à la cause écologique?
Les mentalités changent un peu, petit à petit, heureusement. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'initiatives qui sont prises, forcément avec les grèves de Greta Thunberg, et puis après le mouvement Youth for Climate, etc., ça s'est amplifié. Les gouvernements ont commencé à se dire « bon, là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose ». Donc en effet, il y a eu la Convention citoyenne pour le climat, donc on a eu beaucoup d'espoir. Mais du retour à la réalité, avec la présence des lobbies, etc., qui font que la voix du peuple n'a pas un poids énorme finalement face au lobby, et du coup on est vachement freiné par ça en fait. Par exemple, dans les propositions de loi, ils avaient proposé de baisser la taxe sur les billets de train pour favoriser le train à l'avion. Cette proposition n'a pas été retenue. On sait qu'il y a forcément le lobby des avions derrière ça. Et donc oui, c'est vrai que petit à petit, les propositions tombaient une à une, et au final, on a une loi climat qui n'est pas du tout à la hauteur de la Convention citoyenne pour le climat de base.
Alors, tu nous le disais tout à l'heure, s'il y a une chose qui a changé, en tout cas, c'est les mentalités qui ont un petit peu pris conscience des enjeux écologiques. Peut-être qu'à l'échelle de ton entourage et de la ville, tu as pu constater l'émergence de nouvelles habitudes plus respectueuses de l'environnement?
Oui, bien sûr. C'est vrai que moi, personnellement, j'ai grandi dans une famille un peu écolo, mais écolo... de ce qui était écolo partout, on triait nos déchets et c'était déjà bien parce qu'on savait déjà que d'autres à côté ne le faisaient pas. Mais et c'est vrai que petit à petit, avec mon engagement, j'ai découvert d'autres choses en fait, que je pouvais aller encore plus loin. Donc diminuer les déchets, etc., consommer autrement, prendre aussi conscience des marques qu'il y a derrière tel produit, à quel point Nestlé est partout. J'ai même dû changer les croquettes de mes chats, parce que oui, en effet, Purina appartient à Nestlé. J'ai découvert ça, je me suis dit, bah, ok, je boycotte Nestlé. Et en fait, non, en fait, en nourrissant mes chats, en fait, je suis contre mes idées. Et en fait, c'est vrai que le militantisme, ça permet d'aller plus loin et de se rendre compte qu'il y a en fait un milliard de choses à faire. Et en fait, on se retourne vers un monde qui essaye de marcher au maximum en parallèle à tout ce qui est le capitalisme, etc. Et du coup, c'est vraiment super inspirant et c'est vrai que j'essaye un peu de répondre, on essaye tous un peu de répandre ça autour de nous.
Il y a des lieux à Angers où on peut mettre, traduire en tout cas ce mode de vie un petit peu alternatif au niveau des modes de consommation ?
Alors, il y avait un lieu emblématique, c'était le squat de la Grande Ourse. C'est vrai que c'était vraiment le lieu parfait pour l'imagination d'une vie parallèle. Donc il y avait une friperie, donc une épicerie à prix libre. Donc pour si vous n'avez pas l'argent pour acheter des fruits et légumes, vous pouvez vous servir. Si vous voulez quand même mettre un peu, vous pouviez. C'était ravitaillé par la récupération aussi de supermarchés, de boulangeries, etc., mais aussi par donc le rare.
Des dons
principalement aussi, beaucoup de dons. Et c'est beau aussi de voir à quel point les gens veulent bien donner, etc., et c'est vraiment cool. Il y avait aussi un free shop, donc il y avait donc c'était comme une friperie, mais pareil à prix libre. Donc plein de dons de vêtements, etc. Et oui, en fait, on pouvait vivre totalement en parallèle. Il y avait aussi, bien sûr, il y avait des humains qui avaient plein de compétences. Donc il y avait coiffeur, réparation, de mécanique, etc. Donc c'est vrai que c'était super intéressant.
Et au niveau des commerces, peut-être ? Des exemples ?
Oui, bien sûr. Récemment, il y a le J qui est maintenant un frigo solidaire qui est ouvert aux 15-30 ans. Donc, on peut déposer des fruits et légumes si on en a trop. Et si on en a besoin, on peut aller en chercher, etc. Il y a aussi l'association Solidaire et Foot qui fait la récupération de marché. Donc, voilà, à la fin de marché, ils récupèrent tous les invendus et les choses qui sont jetées. Et après, qu'ils les redistribuent à toutes les personnes qui y veulent.
D'après toi, qu'est-ce qui manque pour que la situation soit réellement bouleversée ? Une prise de conscience plus généralisée, du courage politique, des textes législatifs contraignants et les entreprises, un peu de tout ça ?
Oui, un peu tout ça. Je pense qu'il ne faut plus attendre d'événements marquants, parce qu'en fait, il y en a eu plein. Mais en fait, on se rend compte que ce n'est pas assez marquant à chaque fois. Et en fait, plus il y en a, plus ça tombe dans l'habitude. Et du coup, moins ils sont marquants, alors que limite, ils sont de plus en plus graves. Donc non, c'est vraiment plus les exemples ne manquent plus, donc il ne faut plus les attendre. Mais c'est vraiment, une prise de conscience. En fait, c'est compliqué, mais là, ce qu'on demande, c'est un peu de faire un deuil d'une vie ancienne et de renoncer un peu sur quoi les personnes qui aujourd'hui ont le pouvoir se sont construites. Et pour passer à quelque chose de nouveau, et c'est vrai que c'est pas simple quand on s'est construit sur un modèle de passer à autre chose. Nous, on est jeunes, donc ça va, on est jeunes, on peut encore changer sur quoi on va se construire, mais forcément, plus on est âgé, plus que c'est compliqué. Mais donc c'est pour ça qu'aussi, je pense qu'il y a aussi un peu de réticence, mais il faut en effet des lois qui contraignent, comme par exemple l'affaire du siècle. C'est un début, c'est peut-être pas suffisant pour certains, c'est sûr, mais c'est un début, c'est déjà quelque chose dans la jurisprudence.
Alors l'affaire du siècle, pour qu'on situe bien, c'était une action qui avait été menée avec des youtubeurs et même des gens de la société civile qui visaient à attaquer l'État français en justice pour une action contre le changement climatique. Et il se trouve que cette cause l'a emporté et l'État a été condamné à verser 1 € symbolique. Mais c'est, comme tu disais, une action de plus qui montre que c'est maintenant qu'il faut agir. Pour terminer cet entretien, j'aimerais avoir ton avis direct sur ces affirmations. Les jeunes feraient mieux d'aller en cours le vendredi que d'aller manifester pour le climat.
Mais les jeunes aimeraient bien aller en cours le vendredi s'ils n'avaient pas besoin de manifester pour le climat, tout simplement. Aujourd'hui, on fait quelque chose... c'est pas vraiment par choix, c'est parce qu'en fait, on sent que... Oui, en fait, il n'y a plus le choix, là, il faut agir, mais personne ne le fait. Donc oui, on prend sur nous, on se dit, en fait, je vais pas en cours parce que là, il y a bien un réel besoin. Et si je le fais pas, il n'y a rien qui va être fait. Et nous aussi, on aimerait avoir notre samedi après-midi libre au lieu de faire telle action. Oui, on aimerait faire ci au lieu de faire ça. Mais aujourd'hui, il y a de l'urgence et si on ne le fait pas, il n'y aura personne pour le faire.
Et les profs, comment ils réceptionnent votre initiative de dire aujourd'hui, je ne vais pas en cours, je vais manifester ?
Alors ça dépend, il y a des profs qui sont d'accord, qui disent allez-y vraiment, sortez, partez en manif, vous qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous y allez pas ? D'autres qui vont dire mais n'importe quoi, mais c'est quoi ça, etc. Vous ferez mieux d'aller en cours, etc. Mais voilà, comme d'habitude, il y a des avis différents partout et c'est tout à fait normal.
On ne peut pas dire attention au changement climatique et porter des Nike, commander sur Amazon et manger McDo.
C'est vrai que c'est souvent critiqué. Déjà, nous, on est jeunes, donc par exemple, il y a 3-4 ans, on était beaucoup plus jeunes, on n'avait pas du tout la même conscience. Du coup, forcément, oui, actuellement, il y a des gens qui vont s'investir pour le climat, qui vont aller marcher, qui vont faire des actions, qui vont être totalement militants. mais qui il y a 2 ans n'était pas du tout le cas. Il y a 2 ans, qui achetait la super belle paire Nike, etc. Parce qu'il y a 2 ans, on n'avait pas cette même conscience. Il y a 2 ans, par exemple, certains avaient 14 ans, 15 ans, on n'a pas du tout la même conscience à cet âge-là. Donc c'est tout à fait normal. Ensuite, en fait, on critique donc le capitalisme principalement. Mais c'est quelque chose où, en fait, on est dans le capitalisme, on est dans ce qu'on critique, et c'est compliqué aujourd'hui de vivre en parallèle de ça.
D'en sortir complètement.
Oui, c'est ça. Donc, on essaye de vivre au maximum en l'évitant, mais parfois, c'est juste pas possible. On essaye de faire au mieux, c'est sûr, mais on n'est pas parfait. Et vivre dedans, ça nous oblige parfois à devoir vivre, oui, à être « Oh là là, t'es pro-capitaliste !» Parce qu'il n'y a plus le choix, en fait. Et c'est ça aussi qui est alarmant, de se dire « Bah mince, j'arrive pas à trouver une alternative à ça. » Et on est vraiment dans un monde avec pas assez d'alternatives dans tous les domaines.
La stratégie de désobéissance civile et la non-violence sont inefficaces et ne font pas bouger les lignes.
Non, parce que la désobéissance civile, ça permet de faire des actions qui sont marquantes, ça permet de déranger aussi. Par exemple, nous, lorsqu'on avait bloqué McDonald's, oui, c'était de la désobéissance civile, non, ce n'était pas inutile. Ça a fait permettre de fermer le McDonald's de Foch pendant toute une journée. Alors oui, c'est rien à l'échelle de McDonald's, mais pour nous, c'est quand même bien. Ça nous a permis de rentrer en compte, enfin, de parler à plein de gens qui passaient et de les sensibiliser sur ce sujet, de faire connaître tous les mauvais côtés de McDonald's.
Eh bien, merci Charlotte d'avoir répondu à nos questions. On te retrouvera sans doute le 19 mars dans le cortège. Rendez-vous donc pour celles et ceux qui sont intéressés à 14h au Jardin du Mail. Et à très vite.
J'ai repêché pour vous quelques titres et vous propose une revue de presse. On se dit oui et on prend son nom, pas toujours. Aujourd'hui, dans les mariages hétéros, l'épouse peut prendre le nom de son mari, ils peuvent associer les deux, ou le mari peut prendre le nom de sa femme en nom d'usage. Bref, sur le papier, il y a le choix. Même le service public le précise, dès lors que l'époux ou l'épouse indique vouloir porter le nom d'usage de son choix, les administrations doivent l'utiliser. Et bah pas sur tous les papiers a priori. Et le collectif Georgette Sand lance une pétition pour que ces choix soient respectés. 20 minutes présente leur campagne intitulée « Rendons son nom à ZZ épouse X ». L'objectif est également qu'il ait la possibilité de prendre le nom de sa mère pour effacer par exemple celui d'un père violent et assurer l'indépendance et autonomie financière des femmes. Et oui, si les femmes peuvent ouvrir un compte bancaire depuis 1965 sans l'accord d'un homme de sa famille, aujourd'hui, en 2021, elles peuvent se retrouver dans l'impossibilité de retirer le chéquier d'un compte joint parce que la banque a automatiquement mis le tout au nom du mari. Le collectif donne aussi l'exemple d'une femme dont seul le mari reçoit les avis du fisc alors que c'est elle qui paye la taxe foncière. Une honnête personne qui veut juste payer ses impôts, quoi. Et outre ces déboires administratifs, Georgette Sand souhaite mettre en avant les conséquences de ces dysfonctionnements en cas de séparation ou violence conjugale. Impossible pour les femmes d'avoir un justificatif de domicile à leur nom ou de récupérer donc le fameux chéquier du compte joint évoqué précédemment. Et la réponse des banques, bah c'est comme ça, on n'y peut rien. Pire excuse. Comment ne pas parler d'Eliot Page en première page du Time Magazine cette semaine, ou surtout du contenu de l'entretien en longueur réalisé par la journaliste Cathy Steinmetz. C'était annoncé par cette couverture. L'article est en anglais, je précise, le papier est disponible en ligne et aborde l'invisibilisation des hommes transgenres dans une société obsédée par la représentation de la féminité. L'acteur de 34 ans a fait son coming out transgenre en décembre dernier, un moment fort pour lui lorsqu'il en reparle avec la journaliste du Time. Ce fut un véritable moment d'excitation et de profonde gratitude d'avoir pu arriver à ce moment de ma vie, mélangé à beaucoup de craintes et d'angoisse. Cette interview fleuve est aussi une remise en contexte de la place des personnes transgenres dans la société nord-américaine. Même si 1,8% de la génération Z se déclare transgenre là-bas, le retour de bâton des plus conservateurs ne s'est pas fait attendre. Pour ces derniers, vivre pleinement son identité ne serait qu'un phénomène de mode. Et passage aussi rapide sur la transphobie ouvertement assumée de l'autrice J.K. Rowling au nom d'un supposé féminisme. Page n'avait pas anticipé l'ampleur de son annonce, il est devenu une des personnes transgenres les plus connues au monde. Et assumer sa transidentité, c'est déjà un travail de longue haleine, le faire sous la lumière des projecteurs, ça l'est encore plus. Et ce qui le frappe, c'est l'obnubilation des médias, à toujours vouloir tout connaître des corps des personnes trans jusqu'à les fantasmer. Eliot Page le sait, il est plus privilégié que d'autres puisque riche et célèbre. Il va en faire une opportunité pour faire entendre les voix de celles qui n'ont pas autant. Attention, sujet pente glissante. L'affaire du poème d'Amanda Gorman n'a rien à voir avec la traduction, titre sur Slate, Bérangère Viennot, elle-même traductrice. Bref rappel, Amanda Gorman est la jeune poétesse invitée à l'investiture du nouveau président des États-Unis, Joe Biden. Son poème doit maintenant être traduit dans le monde entier. Ce qu'il s'est passé, Marik Luca Rijneveld, personne non binaire, avait été choisie pour la traduction néerlandaise de ce texte. Dans le média Volkskrant, une journaliste a ensuite déclaré que choisir une personne noire aurait été plus pertinent pour une autrice noire. Et ça y est, la question de qui peut traduire qui est posée. La polémique a même poussé la traductrice à renoncer à la mission, sans aucune animosité et avec compréhension de la situation. Elle venait de gagner l'International Booker Prize et est engagée dans l'égalité des genres, et c'était une belle occasion pour l'éditeur de la mettre en avant. Pourtant, la traductrice l'admet elle-même, elle n'est pas familière de la poésie orale et rythmée appelée spoken word, pratiquée par Amanda Gorman. C'est ce que rapporte un entretien du Point Culture avec l'écrivaine belge Liev Joris. Et ouais, je cite le Point Culture, moi non plus je m'attendais pas à faire ça un jour. Et cet entretien, comme d'autres, n'est pas porteur de vérité absolue, mais on gratte sur la surface de ce qu'on a pu lire jusqu'à maintenant à ce sujet. On revient à l'article de Celt, où nous avons le point de vue de la traductrice. Pour Bérangère Viennot, la traduction est d'abord un savoir-faire au sein duquel il y a des traductoristes spécialisés dans certains genres, journalisme, scientifique, littéraire, j'en passe. La traduction d'un texte, c'est le fruit de ce passage d'un cerveau à l'autre. Et dans ce mécanisme, il y a des petites caractéristiques, des facteurs qui rendent chaque traduction unique. Le vécu des traductrices leur est propre et une similarité parfaite entre auteurice et traductrice est impossible. Je cite Bérangère Viennot, « Tout le talent du traducteur est justement de passer outre cette différence de l'auteur qu'il traduit, qui devient l'espace d'une mission, son auteur. » Les traductrices sont présentées comme des passerelles, passeurs de savoir, elles et eux aussi soumises et soumis aux lois du marché de l'édition et ses tendances. Je finirai par rappeler qu'en tant que femme blanche cisgenre, des éléments peuvent m'échapper. J'essaie moi-même de saisir les enjeux de cette polémique et je comprends tout à fait l'importance, la symbolique, la résonance que de choisir une traductrice noire aurait eu. N'oubliez surtout pas que si vous pouvez lire et comprendre l'anglais, ou de lire ou regarder la performance d'Amanda Gorman pour ce poème qu'on a tendance à oublier dans toute cette histoire. Et pchit-pchit les rageux, n'oubliez pas de prendre votre dose quotidienne de déconstruction, éduquez-vous et prenez soin de vous. On finit cette émission avec le printemps des poètes et une nouvelle lecture.
Le poète a pour thème cette année « Désir ». Le service des affaires culturelles, les bibliothèques municipales et l'association La Miel assurent l'organisation. Ils ont invité deux poètes, un poète tchadien, Nimrod, et une poète angevine, Frédéric Germano. L'association Éclat a le plaisir de rejoindre, d'être intégrée à cet événement. Et les poèmes vont vous être lus par Jocelyne Renoux, Juline Souchet, étudiante à l'UQO, et Bruno Miglietti. Pourquoi n'allez-vous pas à Paris ? Poème de René Guy Cadou. Pourquoi n'allez-vous pas à Paris ?
Mais l'odeur des lys.
Les rives de la Seine ont aussi leurs fleuristes.
Mais pas assez triste. Oh, pas assez triste. Je suis malade du vert des feuilles et de chevaux, de servantes bousculées dans les remises du château.
Mais les rues de Paris ont aussi leurs servantes.
Que le diable tente. Mais moi seul dans la grande nuit mouillée, l'odeur des lys et la campagne agenouillée, cette amère montée du sol qui m'environne, le désespoir et le bonheur de ne plaire à personne.
Tu périras d'oubli et dévoré d'orgueil.
Oui, mais l'odeur des lys, la liberté des feuilles.
Extrait de Hélène ou le règne végétal, chez Segers.
Quelques haïkus pour fêter le printemps.
Vieil étang, au plongeon d'une grenouille, l'eau se brise. Bachot.
Un seul bruit au clair de lune, la chute des camélias blancs. Ranco.
Sous un voile de lune, ombre de fleurs, ombre de femmes, Soseki.
Matin de printemps. Mon âme aussi déborde de vie, Issa.
Anthologie du poème court japonais, traduction Corinne Atlan et Zeno Bianou, aux éditions NRF.
Tous ces poètes que nous avons cités ont peut-être entendu la muse telle que l'évoque Paul Valéry dans son poème Tes pas. Tes pas, enfant de mon silence, saintement, lentement placé vers le lit de ma vigilance, procède muets et glacés. personne pure, ombre divine, qu'ils sont doux, tes pas retenus. Dieu, tous les dons que je devine viennent à moi sur ces pieds nus. Si, de tes lèvres avancées, tu prépares pour l'apaiser à l'habitant de mes pensées la nourriture d'un baiser, ne hâte pas cet acte tendre, douceur d'être et de n'être pas, car j'ai vécu de vous attendre, et mon cœur n'était que vos pas. Extrait de Charme, Gallimard.